Masechet Chulin, résumé du Daf Tzadik Alech. L'Ima commence par une recherche dans la vie de Rabbi Yehuda qui a dit que le guide d'Hachem n'interdit que dans un seul côté, pas des deux côtés. Donc, soit le guide de droite, soit le guide de gauche. Rabbi Yehuda dit qu'il ne sait pas c'est lequel, mais il semble qu'il s'agit de la droite. Et la Gemara s'est demandé, est-ce que Rabbi Yehuda veut dire par là qu'il semble à la Torah d'interdire le guide de droite et de permettre celui de gauche, donc Rabbi Yehuda tranché, ou que non, il semble, ça veut dire que c'est la Svara de Rabbi Yehuda qui semble dire que c'est plutôt celui de la droite qu'il faut interdire, mais la gauche est permise, mais ça reste quand même en doute. La Gemara ramène là-dessus plusieurs Mishnayot et Braïtot pour essayer de prouver l'avis de Rabbi Yehuda, jusqu'à que finalement la Gemara prouve d'une Braïta qui dit, celui qui a mangé deux guides nachés de deux bêtes différentes. Donc, on comprend de là qu'il s'agit les deux du même côté, de la droite, parce que sinon, c'est pas la peine d'amener une deuxième bête. Selon Tanakama, il est frappé deux fois, donc 80 coups, deux malkouyot. Selon Rabbi Yehuda, il ne reçoit que 40 coups. Donc, on voit que Rabbi Yehuda pense que celui-là doit être hayav, malgré qu'il n'a mangé que le guide d'Hachem de droite. Donc, c'est la preuve que Rabbi Yehuda a tranché que c'est la droite qui est interdite et la gauche qui est permise. Et pour quelle raison Rabbi Yehuda pense qu'il n'est pas chayav 80 coups, que 40? C'est parce qu'il s'agit d'un cas où il n'y avait pas de kazaït, dans un des deux. Et justement, selon Chachamim, il est quand même chayav. Selon Rabbi Yehuda, il n'est pas tour jusqu'à qu'il y ait un kazaït. La Gemara ensuite ramène quatre raisons pourquoi est-ce qu'il semble dire que c'est plutôt le guide d'Anaché de droite qui est interdit, selon Rabbi Yehuda, et celui de gauche qui est permis. Quelle est la preuve de Rabbi Yehuda? Première explication dans la Gemara, c'est parce que c'est écrit dans la Torah, Hayarech, la hanche connue, la plus importante, c'est la droite, donc. Deuxième explication, c'est parce que Torah dit que le guide Anaché, donc le nerf sciatique de Yaakov, a été détaché de sa place lorsqu'il s'est battu avec le malach de Esav. Or, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre par là? C'est parce que quand quelqu'un, il veut faire tomber celui qui est en face de lui, il l'enlace. Et quand il l'enlace, sa main droite arrive jusqu'au côté droit de celui qui se trouve en face de lui. Donc, on imagine de là que le malach qui a dû enlacer Yaakov, il l'a frappé sur le côté droit de Yaakov. Donc, c'est le guide d'Anaché de droite qui a été frappé. Troisième explication, c'est que Yaakov a vu le malach sous forme de goy, d'un goy. Il a cru que c'était un goy. Et quand on rencontre un goy, il faut que le goy soit à la droite du juif. Et donc, lorsque le malach a frappé Yaakov, il a frappé du côté qui était plus proche de lui, qui était donc la droite de Yaakov. Ou bien, quatrième explication, Yaakov l'a vu comme un Talmid Chacham. Ici aussi, celui qui marche à côté d'un Talmid Chacham, il doit être à la gauche du Talmid Chacham. Il faut que le Talmid Chacham soit à sa droite. Donc, quand le malach a frappé Yaakov, puisque le malach était à la droite de Yaakov, il a frappé du côté qui était proche de lui, qui est donc la droite de Yaakov, et donc c'est ça qui a été blessé. C'est le guide d'Anaché de droite de Yaakov qui a été blessé. La Gemara ensuite ramène l'explication de Chachamim sur le mot Behe Avkoimo quand ils se sont disputés, puisque ça ne vient pas nous apprendre qu'il a dû l'enlacer. Selon Chachamim, il a frappé des deux côtés en même temps en l'attrapant par derrière. Donc il était derrière lui, et il a frappé des deux côtés. Donc qu'est-ce que veut dire le pasuk Behe Avkoimo en se disputant avec lui? Ça veut nous apprendre que la poussière de leur dispute est montée jusqu'au Kissé à Kavod. La Gemara ensuite ramène encore un pasouk sur le guide d'Anaché, qui dit que Yaakov a été frappé. Là, c'est une rachat du pasouk où la Gemara veut expliquer que Yaakov a souffert dans son guide d'Anaché, et dorénavant, tout Israël est interdit de le consommer. D'autres rachats on a encore. En ce qui concerne le Yosef qui a servi à ses frères à manger de la viande, il a demandé à son serviteur de découvrir la shrita, de dévoiler la shrita de manière à ce que les frères voient clairement qu'il a bien fait la shrita, et aussi de retirer le guide d'Anaché devant eux pour ne pas qu'ils craignent qu'il y ait un problème de guide d'Anaché. Qu'est-ce que Yaakov faisait là-bas? C'est quoi l'histoire de Yaakov? Donc on revient à Yaakov qui s'est disputé avec le malach. Il avait oublié ses petites cruches et donc il s'est mis en danger de manière à retrouver ses cruches. Et de là, on apprend que les tzadikim font attention à leur argent, à leur bien, plus même que à leur propre corps, parce que Yaakov s'est mis en danger pour récupérer ses cruches. La Gemara ensuite ramène plusieurs psukim où on apprend qu'un Talmid Chacham ne peut pas sortir seul la nuit. Et le premier pasuk, c'est justement Yaakov qui est sorti seul la nuit et qui a dû confronter la dispute avec le Malach toute la nuit jusqu'au matin. Mais il y a encore plusieurs psukim. Ensuite, après tous ces psukim-là, la Gemara ramène le pasuk qui dit « Le soleil s'est levé pour lui ». Est-ce que le soleil ne s'est levé que pour Yaakov et pas pour tout le monde entier? M'explique la Gemara. C'est le même soleil qui s'est couché avant son temps lorsque Yaakov est arrivé à Aram Moria. Et la Gemara raconte toute l'histoire. Yaakov est sorti de Beersheva de son père pour aller à Haran. Il est arrivé à Haran et il s'est dit qu'il aurait dû faire un arrêt à Aram Moria, à l'endroit du Beit HaMikdash, pour faire une tefila là-bas, comme ses pères qui ont fait une tefila là-bas. Donc, dès qu'il a décidé de faire la tefila là-bas, il a écrit sa tadérer, il s'est retrouvé immédiatement à l'endroit du Beit HaMikdash, il a fait une tefila là-bas. Kadosh Baruch Hu voulait qu'il dorme là-bas, donc il a couché le soleil avant son temps. Et donc, justement, ce soleil qui a dû se coucher avant son temps, il a dû se lever avant son temps, avant son heure, pour rattraper les heures de jour qui ont manqué au moment où Yaakov a dû se coucher à Aram Moria. Ensuite, la Gemara fait encore une racha. Yaakov a pris des pierres de l'endroit. Et ensuite, le pasuk dit, il a pris la pierre de l'endroit quand il s'est levé. Donc, avant de se coucher, il a pris des pierres pour les mettre sous sa tête. Quand il s'est levé, il a pris la pierre, il en a fait un misbéar. La Gemara demande, est-ce qu'il y avait plusieurs pierres ou il n'y en avait qu'une? Répond la Gemara, elles se sont toutes avalées en une parce qu'elles voulaient toutes être en dessous de la tête du tzadik. Ensuite, la Gemara, elle rentre dans le rêve de Yaakov qui a rêvé. Il a rêvé qu'il a vu une échelle. La Gemara, elle fait un calcul que l'échelle faisait 8000 par saot pour que deux malachim qui montent et deux malachim qui descendent puissent être en même temps sur l'échelle au même endroit. Donc, 4 malachim fois 2000 par saot chacun, ça fait 8000 par saot. La Gemara ramène encore un passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a dû garder Yaakov pour ne pas qu'il soit en danger parce que les malachim étaient jaloux de lui. Ensuite, la Gemara ramène encore une racha. Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, sache que la terre sur laquelle tu te couches, elle te sera donnée à toi et à ta descendance. Et alors, quel chidouche, c'est cette petite terre là où il s'est couché dessus, c'est pas une grande promesse que de l'hériter. Mais la Gemara explique que non, toute la Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu l'a plié en dessous de Yaakov au moment où il s'est couché là-bas. Ensuite, on a le pasuk qui dit que le malach de Esav a demandé à Yaakov de le libérer, de le laisser partir au matin. Et la Gemara explique que le malach a été justement à dire à Yaakov que c'est son tour de faire une shira, de faire sa shira, son chant à Hachem dans le ciel. Et donc, il était pressé de sortir pour remonter au ciel, pour faire son chant dans le ciel. Ensuite, la Gemara rentre dans le sujet, justement, du chant des malachim, en disant que Il y a trois groupes de malachim, un groupe qui dit Kadosh, un groupe qui dit Kadosh et le troisième groupe qui dit Kadosh Hashem Tzvakot. Mais la Gemara demande qu'on a une autre braïta qui dit que les malachim n'ont le droit de citer le nom d'Hashem qu'après trois mots, qui sont Kadosh, Kadosh, Kadosh et ensuite Hashem Tzvakot, plus que les Bnei Israël, qui peuvent citer le nom d'Hashem au bout de deux mots, comme Shema Israël, Hashem, etc. Donc les Bnei Israël n'ont besoin que de deux mots avant de se permettre de citer le nom d'Hashem. Tandis que les malachim en ont besoin de trois. Donc la Gemara explique que non, il faut dire que les malachim disent effectivement, le troisième groupe qui dit Hashem Tzvakot, il dit les trois mots Kadosh trois fois, et ensuite Hashem Tzvakot. Demande la Gemara, Baruch Kvod Hashem, Mimkomo, on voit qu'au bout de deux mots, ils peuvent déjà citer le nom d'Hashem. Et pour la Gemara, soit c'est une autre sorte de malachim, soit, une fois qu'ils ont déjà été autorisés de citer le nom d'Hashem après trois mots Kadosh, ils peuvent se permettre de les citer la deuxième fois, au bout de deux mots, Baruch Kevod Hashem Komo.